jusqu'à midi.
Question clé.
Question clé.
Sur la première.
Et on va parler aujourd'hui eh bien, de pleine conscience. Mais pleine conscience dans un cadre en particulier, hein, c'est la prison de Leuze en Hainaut. Un projet a été mis en place depuis un peu plus d'un an par l'association Émergence. Alors qu'est-ce que la pleine conscience, cette forme de méditation un peu particulière, qu'est-ce qu'elle apporte aussi aux détenus et qu'est-ce qui est mis en place très concrètement? Eh bien pour évoquer ce sujet, nous avons aujourd'hui deux invités. Bonjour Caroline Le Cire.
Bonjour.
Vous supervisez les activités d'Émergence. Et puis bonjour Ozan Aksoyek.
Bonjour.
Vous êtes pédagogue formé en psychologie clinique et vous enseignez justement la méditation de pleine conscience. Alors je me tourne tout de suite vers l'enseignant parce que là aussi quand on parle de pleine conscience, on peut avoir certaines idées, on voit plus ou moins ce que c'est, on se dit tiens c'est de la méditation mais c'est peut-être pas que de la méditation. Alors avant de parler du cadre particulier de la prison, c'est quoi la pleine conscience ?
Mais souvent par rapport à la méditation, on a tout un ensemble d'images préconçues. Le thème en résumé, on pourrait dire vraiment ça commence par un entraînement à une certaine attitude. Ça consiste à pouvoir s'arrêter pour pouvoir voir qu'est-ce qui se joue en moi, en termes de pensée, de sensations corporelles, d'émotions, et de pouvoir accueillir ça. À quoi ça sert de pouvoir accueillir? Même parfois si effectivement ce qui se passe en moi ou à l'extérieur de moi, je souffre de ça, ça permet de pouvoir choisir l'action que je vais poser. Donc c'est vraiment un entraînement pour pouvoir passer de quelque chose de réactif, automatique, pulsionnel, à pouvoir effectivement choisir une réaction en fonction de mes valeurs, en fonction de ce qui me tient à cœur, en fonction, tiens, le capitaine de mon bateau, quelle est la direction? Même si effectivement, dans cette réalité de la vie, il y a des vagues, le bateau tangue, et j'ai tendance à parfois à réagir. Et parfois, je regrette les conséquences de ma réaction. Le thème, c'est donc cultiver un espace dans lequel je pourrais choisir de répondre plutôt que dans quelque chose de réactif. Et c'est souvent, à certains moments, cette réaction qui amène des gens à poser certaines actions. Et pour ça, ils sont condamnés et ils se retrouvent à la prison de Leuze.
Alors justement, on va pousser les portes de la prison de Leuze en Hainaut avec cet extrait d'un reportage du JT de la RTBF qui, quelque part, introduit un peu ce sujet de méditation en prison.
Des murs de 6 mètres de haut pour une prison conçue comme une place forte, toute de béton, de verre et d'acier. Depuis la zone de contrôle, une vue directe sur les 4 ailes de détention. Ici sont enfermés 225 détenus. Dans leurs cellules, tous ont accès au système intranet de la prison. Il suffit de quelques clics pour se connecter au programme de méditation de pleine conscience.
Centrez votre attention sur les sensations de l'air qui rentre par votre nez, par le fond de votre gorge, jusque dans vos poumons.
Caroline Le Cire, pourquoi un jour vous êtes dit on devrait mettre en place un programme de pleine conscience en prison?
Alors ce qui est très intéressant, c'est que c'est la direction de la prison de Leuze qui est venue à nous. Et c'est aussi une des raisons, je pense, pour laquelle le programme fonctionne si bien. C'est que c'était vraiment une demande de la direction de réfléchir à une autre politique de détention pour que les détenus aient des clés. On sait que les séjours en prison sont souvent la source de plus de problèmes à la sortie. Si on ne prend pas soin de cultiver des attitudes et des clés pour les détenus une fois qu'ils seront de nouveau sortis.
On rappelle que vous supervisez les activités d'Émergence. En deux mots, Émergence, cette association, c'est quoi ?
Donc c'est une association qui organise des cycles de pleine conscience pour tout le monde, donc y compris les détenus, et aussi des journées, chaque dernier week-end de septembre, des journées de réflexion sur la psychologie et le développement personnel pour le rendre accessible à tout le monde, en fait.
Alors, la direction de la prison de Leuze en Hainaut vient vous trouver il y a de cela quelques mois, en vous disant on aimerait bien mettre en place quelque chose. Il faut quoi, convaincre les détenus de venir, ou il y avait aussi une volonté de la part des détenus de participer finalement à ces ateliers ou de cliquer, comme on vient de l'entendre dans cet extrait du JT, cliquer sur l'ordinateur pour rentrer finalement en méditation.
Rentrer en méditation, quelle drôle d'expression. Mais donc la réalité aussi, c'est que uniquement les détenus qui suivent le cycle ont le droit d'avoir accès à cela sans avoir expérimenté la chose concrètement, ça ne ferait pas vraiment sens. Donc effectivement, c'est eux qu'ils s'inscrivent et c'est fondamental. Le thème, c'est eux en prison ou nous à l'extérieur. La souffrance et l'insatisfaction, c'est quelque chose qui fait pleinement partie de notre vie. Et vous pouvez imaginer, quand vous en avez pour 3 ans ou 20 ans, et que vous êtes enfermé dans ces murs, de la souffrance et de l'insatisfaction, il y en a. Et le thème, c'est vraiment ouvrir un laboratoire de « mais comment je fonctionne ?» et constater qu'il y a souffrance. Le thème, c'est généralement la souffrance, j'ai tendance à l'éviter, à fuir, à lutter contre, et ça donne des résultats exécrables. Donc le thème, c'est, moi, en tant que formateur, lors de la première séance, leur faire prendre conscience qu'effectivement, il y a souffrance, et qu'ils sont à la recherche de moyens pour mettre de l'espace. Comment faire avec cette réalité de la souffrance? Et ça nous concerne tous, en tant qu'humains, qu'on soit en prison ou en dehors. Et ce qui fait aussi que j'enseigne ça vraiment dans différents types de publics. Il y a du tout public, j'enseigne ça aussi avec des musiciens de la chapelle Reine-Élisabeth, qui sont des gens très particuliers, que ce soit aussi en soins palliatifs, ou vraiment, voilà, ça concerne un tout public, parce que cette pleine conscience, c'est quelque chose d'intrinsèquement humain, que tout le monde connaît et a déjà fait l'expérience de. Le thème, c'est cultiver cela.
Alors concrètement, ça se passe comment? Parce que là, on l'a entendu, dans cet extrait, on peut avoir accès à l'intranet de la prison, mais on peut aussi venir vous trouver en atelier. Caroline Le Cire, je rappelle, vous supervisez les activités d'émergence de cette association.
Oui, donc en fait, ce qu'on propose à la prison de Leu, c'est ce qu'on propose pour tous les groupes qu'Emergence organise. C'est donc un cycle en 8 semaines, donc c'est plus qu'une formation, c'est vraiment un entraînement à la pleine conscience. L'instructeur se met vraiment au même niveau que les détenus. Les gens sont placés en cercle et comme disait Ozane, la souffrance et l'expérience de vie difficile, elle fait partie du quotidien de tout le monde. Et donc chaque semaine, pendant une durée de 2 heures à 2 heures et demie, l'instructeur retrouve son groupe et partage des exercices très concrets, donc des exercices de centrage sur la respiration et sur le corps, qui sont vraiment deux supports sur lesquels on peut prendre conscience qu'on est là, qu'on est dans le présent, c'est maintenant qu'on peut agir. Des exercices, des discussions en groupe. Et alors, il y a un travail vraiment qui est demandé à domicile, donc au quotidien. Et donc, pour les détenus, c'est pour ça qu'ils ont accès à ces supports audio, de pratiquer une demi-heure en écoutant les enregistrements de l'instructeur pour pouvoir justement cultiver cette présence, sentir que dans tous les moments, je suis reliée à mon souffle, j'ai mon corps qui est là. Et c'est vraiment un chemin de 8 semaines qui permet de discuter vraiment et de travailler avec eux sur différents thèmes.
Quand les détenus viennent vous voir pour la première fois, qui participent à ces ateliers, qu'est-ce qu'ils vous disent avant de commencer? Ils sont dans quel état psychologique?
Mais ça dépend vraiment de chacun. Mais le thème, effectivement, que ce soit pour un tout public ou que ce soit avec des détenus, c'est que chacun puisse être clair. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi est-ce que vous allez consacrer du temps à ça? Pourquoi est-ce que vous êtes inscrit à ce cycle? Et le thème, c'est aussi vraiment que chacun puisse nommer sa motivation.
Et qu'est-ce qu'ils répondent?
Frustration. Tiens, pour l'instant, ça fait 3 ans que je suis là. Ma femme a un autre gars et y a mes enfants et ça me rend complètement fou avec ce gardien-là qui claque à chaque fois à la porte quand ça me fait ça et je sens que j'observe un ensemble de pensées où j'aurais tendance à l'insulter. Donc aussi, ils reconnaissent quelque part, ils sont emprisonnés, très concrètement en prison, mais c'est aussi reconnaître que chacun de nous, quelque part, est emprisonné en lui-même par rapport à ses habitudes. Et le thème, c'est aussi pouvoir cultiver une certaine liberté intérieure. Et c'est tout le thème. Mais c'est aussi, comme je le disais, reconnaître une insatisfaction qui est là et qui est source de beaucoup de réactivité, souvent qui est regrettée, tout concrètement, parce qu'elle amène un ensemble de conséquences qui vont me retomber dessus.
Insatisfaction qui amène peut-être du stress. Il y a toute une série d'études qui ont été réalisées sur le fonctionnement du cerveau et qui montrent qu'en situation de stress prolongé, finalement, le cortex va se débrancher, notre cerveau se débranche et on va plutôt réagir comme un animal et beaucoup moins comme un humain. Caroline Le Cire.
Oui, on peut dire ça comme ça, mais c'est vrai que ce que les études ont montré surtout, c'est qu'on peut très rapidement reprendre contrôle de tout ça et que donc avec un entraînement de 8 semaines minimum, non, c'est quand même pas beaucoup dans une vie, on peut réapprendre justement à rebrancher et à être présent, donc revenir par des simples exercices, se rendre compte qu'on est là et qu'on peut agir et reprendre justement le contrôle de notre cerveau.
Ce projet, il existe depuis un an maintenant, c'est un projet quoi? Projet pilote? On peut dire ça comme ça?
Oui.
Quand on se penche sur la question, on remarque que dans d'autres pays, l'Inde par exemple, ça fait plus de 40 ans que la méditation existe en prison.
Mais donc effectivement, voilà, l'Inde fut une époque a vraiment été le berceau de la naissance d'une tradition qu'on appelle le bouddhisme, même si maintenant c'est complètement retiré. Et il se trouve que donc il y a des retraites qu'on appelle vipassana, mais peu importe. Et c'est vraiment des retraites de 10 jours. Mais c'est vraiment aussi dans ce contexte-là en Inde, effectivement, c'est déjà relativement développé. Mais c'est beaucoup développé aux États-Unis, très concrètement. Et aux États-Unis, c'est un monde carcéral très très grand, et voilà, donc ça prend place aux États-Unis déjà.
En Grande-Bretagne aussi, dans les prisons de haute sécurité. Est-ce qu'il y a des prisons qui sont plus adaptées, si on peut dire, ou des détenus qui sont plus adaptés à ce genre de démarche?
Je ne pense pas. Je ne pense pas. De toute façon, la prison est un milieu très particulier. Et même si cette prison, nous, on a eu l'occasion de la visiter alors qu'il n'y avait pas de détenus, et qu'effectivement, les espaces sont bien conçus, il y a une certaine luminosité, de la couleur, et donc ce lieu d'enfermement a été bien conçu. Mais je vous garantis que pour aller à la pièce où je donne l'atelier, il y a une dizaine de portes blindées, et c'est un vrai Tupperware. Et en même temps, le lieu est relativement agréable pour ce qu'il est, alors que la prison de Leuze est plus adéquate que la prison de Saint-Gilles. Le thème, c'est avant tout cette souffrance que nous partageons en tant qu'humains. Et c'est ça qu'il faut accueillir pour peut-être pouvoir mieux faire avec.
Alors ces détenus, ils viennent vous voir, ils participent donc à ces formations de 8 semaines. Comment est-ce qu'ils évoluent finalement? Est-ce que chacun a une évolution particulière où on retrouve un peu le même processus, le même cheminement pour tous ces détenus?
Là, on n'a pas encore vraiment de clés, puisqu'on a commencé, hein, c'est un programme relativement récent. On a pour l'instant donné 3 cycles avec des détenus et un nouveau va commencer en mai. Et ce qui est intéressant aussi à signaler, c'est qu'on a aussi donné un cycle à la direction de la prison et aux gardiens. Et je pense que c'est important à signaler, c'était vraiment une demande de notre part pour que ce ne soit pas réservé justement aux détenus, mais que tout le monde qui travaille dans cette prison puisse bénéficier de ces clés pour gérer le stress, puisque l'insatisfaction et le stress, il est chez chacun de nous, et il est aussi très présent chez les personnes qui travaillent au sein des prisons. Ce n'est pas du tout un endroit de travail facile. Et ça a vraiment, là, je pense, porté pas mal de fruits, Ozane.
Donc moi, j'ai eu l'occasion de faire deux groupes avec les détenus et de participer au groupe avec les gardiens et la direction. Et pour moi, c'est vraiment fondamental parce que, bien évidemment, quand je venais avec ce côté méditation et que les gardiens sont gentiment me saluaient, qu'est-ce qu'il vient faire? Une espèce d'attitude zen, ma famille, ouais. Il me regardait vraiment, vraiment loin. Et moi, je sais que la réalité, c'est je propose aux gens qui suivent ce cycle, gardiens comme détenus, de faire face à leurs souffrances. Et donc, le fait que une partie des gardiens, en tout cas quelques-uns, aient suivi ce cycle, maintenant, leur regard est différent.
En quoi?
C'est fondamental. Mais ils se reconnaissent que, et l'un et l'autre, même si un a un uniforme de gardien et l'autre a un uniforme de détenu, qu'ils ont un ensemble de choses communes qu'on appelle insatisfaction, douleur, réactivité, et qu'en fait nous sommes tous humains, même si à ce moment donné, là maintenant, l'un est derrière le barreau et l'autre est de l'autre côté.
Oui, et ils ont aussi en eux, en plus de la souffrance et de l'insatisfaction, aussi cette merveilleuse beauté qui est dans chacun et qui est peut-être cachée chez les détenus, mais que nous aussi, on peut, avec ces cycles de pleine conscience, les aider à revoir pour qu'une fois qu'ils sont sortis, ils reprennent confiance en eux, en leur capacité de revivre et de mener une vie normale et de peut-être faire cesser ce cycle de violence et de souffrance qu'ils infligent aux autres.
Mais pourquoi, pour celui ou celle qui n'a jamais pratiqué la pleine conscience, qu'est-ce qui se passe dans mon esprit, dans mon cerveau, dans mon corps, quand je pratique la pleine conscience? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, je passe de cette insatisfaction à autre chose?
Mais le thème, ce serait vraiment, on va dire que la douleur est incontournable. Elle fait pleinement partie de la vie. La souffrance, ça va être ma relation à ma douleur. Et souvent, mon refus ou mon déni de cela. Et c'est ça qui fait la différence. Moi, quand je vais chez le dentiste, quand je vais m'asseoir sur le fauteuil, je suis déjà dans la souffrance. La douleur n'est pas encore là.
On est deux.
Voilà. Et donc tout le thème, c'est... Il y a une phrase que j'utilise pour la fin de cycle, c'est « Puis-je avoir la sérénité d'accepter ce que je ne peux pas changer ?» Le courage de changer ce que je peux et la sagesse d'en faire la différence. Et donc à partir de là, c'est vraiment une clé pour pouvoir orienter mes actions. Et cette notion aussi d'accepter, c'est vraiment... Ça n'a rien à voir avec la résignation. C'est ça qui va pouvoir me permettre de répondre en tant que capitaine de mon bateau, de ma vie, à ce que je traverse là maintenant.
En fait, ce qui change vraiment, c'est la relation à nos pensées. Donc on dit, on ne peut pas changer nos pensées. Le but n'est pas de dire, on pense tous comme des bisounours. Mais avec toutes les pensées qui nous traversent, qui vous traversent, avec les événements qu'on a connus aussi la semaine passée, comment je peux arrêter cette radio qui fonctionne toujours dans ma tête et qui me raconte des choses certes intéressantes, mais aussi des choses tout à fait stupides. On a tous eu des pensées comme ça. Et donc... prendre conscience qu'on est habité de pensées, qu'on ne peut pas les contrôler, mais qu'on peut les regarder comme on regarderait un ciel rempli de nuages. Certaines pensées intéressantes, certaines pensées qui nous envahissent le soir quand on a une insomnie. Et comment je peux prendre contrôle et ne pas croire tout ce que ma tête me raconte et cultiver cet espace de liberté. Et c'est ça, revenir au souffle, revenir au corps, c'est se rendre compte qu'on n'est pas nos pensées. C'est vraiment ça, je pense, le déclic fondamental que les détenus et tout à chacun peut découvrir dans un cycle de pleine conscience. Nous ne sommes pas nos pensées. On a une liberté par rapport à ce que notre tête nous raconte. Notre cerveau hyper utile, comme on l'a dit, qui permet de faire mille et une choses, mais qui parfois nous rend vraiment fous et tristes et en colère parce qu'on ne sait plus quoi faire pour ne plus entendre ces voix qui nous racontent n'importe quoi, qui nous...
On va poursuivre cette discussion autour de la pleine conscience en prison, mais aussi dans le cadre bien hors de la prison. On va essayer d'être très concret dans des exercices peut-être que l'on pourrait proposer à nos auditeurs et auditrices qui ont envie peut-être de s'initier aussi à la pleine conscience. On va faire tout cela avec vous, Caroline Le Cyr, qui supervisait les activités de l'ASBL Émergence, et puis avec Ozan Aksoyek, pédagogue formé en psychologie clinique et enseignant de la méditation de pleine conscience. Ne bougez pas, on revient après ceci.
11h midi, question clé sur la première, Cédric Gauthier.
Et nous parlons de pleine conscience et de pleine conscience en prison avec ce projet initié depuis un an maintenant dans la prison de Leuze en Hainaut, et puis cette initiative de l'association Émergence qui va à la rencontre finalement des détenus mais aussi des gardiens de la direction pour leur proposer des séances de pleine conscience, en tout cas avec les volontaires, ceux qui ont envie de participer à ces séances de pleine conscience. Pour en parler, on a aujourd'hui en plateau Caroline Le Cyr qui supervisait les activités d'Émergence, l'association qui a donc mis en place différents ateliers. Et puis Ozan Aksoyek, vous faites aussi partie de cette association et vous enseignez la méditation de pleine conscience. On le disait juste avant cette interruption, il y a des exercices, parce que c'est vrai, quand on parle de pleine conscience, on vous écoute, on dit oui, d'accord, ça m'intéresse, ça me touche, ça me parle, mais je fais comment? Comment est-ce que je commence, moi, vous qui nous écoutez, à entrer dans ce processus de pleine conscience? Il va falloir être très concret, parce que je suis un homme très concret.
Mais très concrètement, tiens, si à un moment vous me posiez là maintenant une question que je trouvais dérangeante et que je trouvais un petit peu agressive, ma tendance, ce serait vous de la renvoyer un petit smash comme ça.
Voilà. Vous êtes comme ça, vous.
Évidemment, il n'y a que moi qui suis comme ça.
Oui, bien entendu.
J'en ai bien conscience. Le thème serait pouvoir, dans cette fraction de seconde, reconnaître que quelque part j'ai été heurté et je suis un petit peu irrité par la question, par le commentaire que vous venez de faire sur ce que je viens de dire, et que je reconnais qu'il y aurait une tendance à réagir. Le thème, c'est, à partir du moment où j'ai conscience que cette réaction est possible, je peux la désamorcer. Et tout le thème, c'est désamorcer à partir du moment où je désamorce.
Je fais comment pour désamorcer ça? Quand on se trouve confronté à quelqu'un, une réflexion qui dérange, et on la sent, elle est bien, on a envie de ce smash, et pour le désamorcer, on fait comment?
Mais quand vous avez dit ça, j'ai vu vos épaules qui sont montées un petit peu, et ça s'est crispé. Donc c'est reconnaître dans le corps comment est-ce que cela se manifeste. Ma pensée qui me traverserait, si vous me posiez une question qui ne me convient absolument pas, que je trouvais inadéquate, dans ma tête, ça ferait, mais quel imbécile lui avec ses lunettes, mais pour qui il se prend?
Je regardais vos épaules du coup.
Donc je constate cette pensée-là, mais effectivement, j'ai aussi conscience que si je réagissais de façon aussi un petit peu virulente, on serait parti dans quelque chose en fait qui ne me convient pas. Et donc le thème, c'est que j'ai une liberté de choix. Si je sais ce qui se passe et qu'il y a de l'espace, peut-être que je peux désamorcer une réaction. Donc le thème, c'est vraiment comme une notion de boussole. Le thème aussi, c'est qu'est-ce qui est important pour moi, là, maintenant, et avoir le choix de pouvoir répondre plutôt que de réagir. Donc pour ça, effectivement, se relier à la respiration, se relier aux sensations corporelles et prendre conscience de qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de moi. Le thème n'est pas d'être le maître de ce qui se joue à l'intérieur de moi. Le thème, c'est de ne plus en être l'esclave.
Caroline Le Cyr.
Oui, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a de nombreuses études qui montrent comment notre cerveau fonctionne. On a de plus en plus d'informations là-dessus et on se rend compte à quel point on connaissait mal le cerveau. On a souvent cru que le cerveau était une fois qu'on avait 20 ans, on ne faisait que perdre des neurones. En fait, on se rend compte maintenant qu'il y a une plasticité neuronale incroyable et qu'en fait, on peut justement, en travaillant notamment par la pleine conscience, tracer en fait d'autres circuits, d'autres autoroutes en fait. Et donc, c'est ça qui permet d'avoir d'autres réactions. Donc, effectivement, quand on fonctionne toujours de la même façon, on va avoir tendance à avoir les mêmes habitudes comportementales qui sont souvent d'ailleurs néfastes. En suivant cet entraînement de 8 semaines et en continuant à s'exercer dans la vie de tous les jours, on peut tracer d'autres chemins et habituer notre corps et notre esprit à réagir autrement. Donc c'est vraiment le fait, c'est pour ça qu'on travaille ça sur 8 semaines, c'est qu'il faut le temps et qu'on demande aux enseignants et aux groupes de pratiquer en dehors des séances de groupe, c'est de dire je dois pratiquer, donc je dois entraîner mon cerveau à fonctionner autrement. Ça, c'est important. C'est capital, c'est un entraînement. C'est comme quand on va à la salle de gym, qu'on veut jouer d'un instrument de musique. On ne peut pas juste se contenter d'aller suivre une fois par semaine la leçon Et puis après, on arrête. Non, il faut pratiquer tous les jours. C'est ça qui permet d'avoir une autre, cette liberté. Elle ne tombe pas du ciel. On doit vraiment la travailler. Mais c'est ça qui est aussi qui donne beaucoup confiance. C'est qu'on se rend compte qu'en peu de temps, on peut faire le switch et on peut acquérir cette liberté. Ça ne demande pas 3 ans ou 5 ans de travail. Donc ça, c'est important.
On va retourner, si vous le voulez bien, dans la prison de Leuze en Hainaut. On va réécouter un autre extrait de ce sujet consacré à la méditation dans la prison de Leuze en Hainaut. Extrait du JT. Et puis on va revenir avec ce détenu sur justement cet univers carcéral.
C'est stressant en cellule, on est toujours enfermé dans la même pièce, il n'y a rien à faire. Puis à la télé, on va voir un film, une semaine après, il repasse. Donc on a l'impression de tourner toujours dans le même jour. Et on a l'impression de revivre le même jour, tous les jours, tous les jours, tous les jours. On a l'impression que le temps ne change pas en fait. Et c'est quand on sort de prison après 2-3 ans qu'on se rend compte que tout a changé dehors, on se dit... J'ai passé combien de temps? J'ai perdu toute ma vie. J'espère que ça m'aidera pour ma sortie et que ça m'évitera de refaire les mêmes bêtises que j'ai fait pour rentrer ici, en fait. Ça va m'aider à canaliser ma colère.
Canaliser sa colère. Est-ce que ça fait partie des réflexions que vous entendez souvent? Cet univers pesant, les habitudes, les murs, voilà, qui enferment quelque part les différents détenus.
Mais c'est vraiment aussi, voilà, quelque part, il y a vraiment... Comment tuer le temps? Il le dit bien, toutes ces journées sont les mêmes. Il n'y a plus de visio à court terme, à moyen terme. Il y a quelque chose qui s'enlise. Le thème, c'est aussi voilà, qu'il puisse savoir comment est-ce que cela pourrait évoluer. Si pour un être humain, dans la vision qu'il a pour ce qui vient, il n'y a que des choses noires, le thème, c'est vraiment qu'il puisse y avoir une motivation. Et ça, c'est vraiment important. C'est quelque part rallumer une flamme qu'effectivement, il est possible de s'engager sur un chemin de changement.
Quel genre de motivation est-ce qui peut surgir? Qu'est-ce que vous essayez d'amener comme motivation chez ces détenus?
Je pense que c'est vraiment la motivation à leur sortie, et pouvoir se réinsérer dans la société et pouvoir construire une vie qui soit conforme à leurs valeurs. Puisque moi, en tout cas, j'y ai été 2 fois quand on discute avec eux. J'y ai encore été vendredi dernier, c'était juste après les attentats. Ils se rendent compte qu'ils ont fait une bêtise, donc ils ne sont pas fiers du tout. En tout cas, moi, si je parle vraiment avec le gars avec qui j'ai discuté, ils se rendent compte qu'ils ont foiré et ils n'ont pas envie de continuer à... Ils n'ont pas envie de retourner en prison. Donc ils ont envie ils se rendent compte qu'ils sont otages d'un fonctionnement ou bien de leur famille ils savent pas toujours forcément, mais l'idée c'est qu'ils se rendent compte qu'ils ont envie de fonctionner autrement.
On l'a dit tout à l'heure, cette méditation en prison, elle est organisée depuis des dizaines d'années dans des pays comme l'Inde, les États-Unis, dans des prisons à haute sécurité, dans des univers carcéraux très 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 fermés et très violents aussi. Elle est organisée depuis 1 an maintenant à Leuze en Hainaut. Quels sont les résultats, que ce soit dans d'autres pays ou ici, sur base des expériences? Est-ce que on écoutait le témoignage de ce détenu qui dit « J'espère arriver à canaliser ma violence. Est-ce qu'on parvient mieux à canaliser sa violence ?» Est-ce que vous avez déjà des exemples ou des études chiffrées par rapport à cela?
Des études chiffrées, non, parce qu'on n'a pas encore fait suffisamment de groupes. Donc moi, c'est uniquement du concret partagé par les participants détenus. Un petit cas concret, tiens, effectivement... un détenu, voilà, il y a une femme à l'extérieur avec 2 enfants et voilà, au bout de quelques années peut-être, cette femme rencontre un autre homme, et comment est-ce qu'il peut accueillir cette déchirure à l'intérieur? Sa réaction la prochaine fois qu'il l'a au téléphone, ou même sa réaction pulsionnelle, c'est ils ont le droit de téléphoner, il lui téléphone et il l'insulte comme une... Et voilà, mais à moyen terme, qu'est-ce que ça va donner, ça? Parce que ses enfants restent ses enfants. Donc le thème, c'est est-ce qu'il peut constater que cette colère et cette agressivité qu'il pourrait diriger quelque part via le téléphone là, et pouvoir s'arrêter. Et s'arrêter et constater avant tout en fait qu'il est blessé, qu'il est déchiré par ça. Qu'il puisse observer, tiens, la réaction qui me viendrait là, quelles seraient probablement les conséquences que ça amènerait. Et voir que cette réaction lui amènerait des résultats à l'inverse de ce qu'il veut. Mais pour ça... Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui est important pour moi? Mais il faut que j'ai une certaine vision encore relativement large et panoramique de l'ensemble de la situation. Sinon, dès qu'il y a une émotion forte, je me focalise et je me vête dans la bataille. Et après, il y a des cadavres partout, symboliquement. Mais voilà, donc encore une fois, la notion de pouvoir choisir comment répondre plutôt que de réagir automatiquement.
Dans cet extrait du JT, on n'a pas pu prendre cet extrait-là, mais il y a aussi un passage assez étonnant où on voit des détenus et le formateur qui écoutent le son d'un biscuit. et qui prennent conscience du son d'un biscuit. Alors c'est vrai que ça peut faire sourire, et en même temps, qu'est-ce que ça va apporter aux détenus, avant de manger le biscuit, d'écouter le son du biscuit?
Mais le thème, c'est vraiment donc, c'est un des premiers processus. Généralement, ça se fait avec un raisin, mais ça, ce n'est qu'un détail. Le thème, c'est vraiment de décomposer les différentes séquences. Donc, généralement, on fait ça avec des raisins. Les raisins, je les mange par 50 en regardant la TV et par poignée, et je ne les goûte quasi pas. Donc, c'est juste un moyen. Concrètement, généralement, s'il y a bien une activité où nous sommes en pilote automatique, c'est l'alimentation. Le thème, c'est effectivement retrouver des saveurs et donc, effectivement, réveiller le sensoriel. Sinon, quelque part, les sons autour de moi, je les entends quasi plus, parce que je suis focalisé avec mes pensées. Et donc le thème, c'est de ralentir et d'expérimenter. Donc voilà, avec ce raisin, avec ce biscuit, on ralentit la chose. Et après, ils disent, mais ce biscuit, il a un goût incroyable. Mais ce n'est pas la marque du biscuit ou la qualité du biscuit qui fait ça. Ce qui fait, c'est la façon dont je me suis mis en relation avec cette action de manger. Et donc ça, ça sert concrètement à leur faire expérimenter quelque chose de concret qui est à décliner après par rapport à leur comportement émotionnel et psychique.
Et donc, pour tous ceux et celles qui ont une petite faim là maintenant, on vous conseille d'écouter le bruit d'un biscuit, ou en tout cas de se concentrer à la fois sur le toucher, le bruit du biscuit, etc. Est-ce qu'il y a des gens qui sont totalement, qui ne parviennent pas du tout à rentrer dans ce processus, qui ne parviennent pas à un moment à se poser?
Mais ce qui est sûr, c'est que ça dépend de la motivation. Et donc, si ce n'est pas le moment pour la personne de venir écouter ce qui se passe à l'intérieur de lui, ça n'ira pas.
Ce n'est pas plus difficile de se dire, tiens, j'ai envie de tester, et en même temps, c'est un échec, donc je suis quelque part très mauvais, j'ai plus aucune confiance en moi.
Je pense pas, parce que ce qu'on dit toujours, c'est qu'on peut jamais rater une méditation. Ça, c'est vraiment une phrase qu'on répète souvent. Du moment qu'on essaye de, puisqu'il n'y a pas de bonne méditation ou de mauvaise méditation, l'idée, c'est vraiment de venir explorer ce qui se passe en nous. Et on peut avoir pratiqué pendant 40 ans dans l'Himalaya, comme Mathieu Ricard, ou moins que ça. Il y a des jours où on aura une méditation très calme, où les pensées seront, où on aura vraiment une sensation de bien-être. Il y a des moments où on sera très énervé, on sera très agité. C'est pas grave, on ne cherche pas à atteindre quelque chose. Ce qu'on cherche, c'est à observer, pouvoir observer ce qui se passe en nous, pour justement cultiver les attentions et les attitudes dont on a parlé.
Voilà, pour ceux et celles qui seraient intéressés par cette pleine conscience, peut-être un ouvrage ou voilà, un site sur lequel on peut aller se brancher pour débuter finalement, se concentrer sur ce processus.
Sur le site d'Emergence, donc www.emergence.org, il y a vraiment plein d'informations et des méditations qu'on peut déjà écouter, donc plein de méditations, des fichiers audio qui sont accessibles, et des séances d'information qui sont organisées, des cycles régulièrement. Sinon, comme ouvrage, John Kabat-Zinn, qui est vraiment le personnage clé dans cette méditation mindfulness, plein d'ouvrages à vous conseiller.
Merci beaucoup, en tout cas, Caroline Le Cire et Ozan Aksoyek de l'association Emergence. Je rappelle que vous supervisez les activités d'Emergence, et vous, Ozan, vous êtes pédagogue, et vous enseignez la méditation par pleine conscience. Podcast.